Le gosse, il naît et il connaît le monde qu'au niveau des sens, donc la matière. À un certain moment dans la vie, entre 12 ans et plus tard, des fois jamais, jusqu'à la mort, mais un homme qui est censé être un être humain, tout à coup se pose des questions existentielles. On a vu que « ma », c'est la question « quoi ?». Et ça, même les animaux se posent la question « quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est comestible ou pas ?» Lama, c'est « pourquoi ?». Pourquoi ? C'est une question humaine, déjà. Aucun animal ne va poser la question « pourquoi ?». Il vit. Comment vivre ? Comme ci, comme ça. C'est une question animale. Pourquoi vivre ? Pourquoi pas mourir ? Et ça, on a dit que c'était la lettre « la », le lamède qui montait vers d'autres. C'est un autre. C'est un autre monde. C'est le monde qu'on appelle le monde spirituel, impalpable, philosophique, appelle-le comme tu veux, peu importe. Mais il y a une réalité à ce monde. Il y a une école qui dit qu'il n'y a pas de réalité à ce monde. L'école psychologique, jusqu'à Viktor Frankl, d'accord ? Freud et la psychologie, avant Viktor Frankl, qui dit que tout ce que, même une question que tu auras philosophique, c'est le résultat d'un besoin, c'est créé par des neurones chimiques, des métabolismes, tout ce qui font que tu n'es que des réactions du ça, du moi, du surmoi, d'accord ? Premier topic, deuxième topic, tout, la psychanalyse. Tu as reçu un bagage culturel, génétique, et tu as un principe de réalité, tu es confronté à la réalité, ça fait des réactions qui font que. Mais tu n'es rien. Toi, intrinsèque. Tu n'es que ce que tu as reçu. C'est le contraire total de ce que dit la Torah. La Torah dit, il y a... C'est vrai que j'ai un inné génétique, j'ai un background social, éducatif, etc. Mais il y a une partie qui est au-dessus de cela. Qui, elle, pose des questions de sens. Pourquoi ? Au niveau le plus bas, c'est la science. La science, elle voit, quelqu'un voit une pierre qui tombe. Bon, alors, au niveau animal, qu'est-ce qui se passe ? Une pierre tombe. Au niveau humain, lama, pourquoi elle tombe ? Donc, tu cherches une loi, tu cherches quelque chose qui gère ça. Le fait de chercher une loi scientifique, adaptable à tous les cas de gravitation universelle, c'est déjà beaucoup plus que l'animal, c'est chercher qu'est-ce qui sous-tend cela ? Il y a une chose qui fait que, il y a une loi, il y a un ordre, ça s'appelle Torah. Torah, c'est une fois en bon français, les lois qui gèrent. Maintenant, quand tu vas plus loin, tu te poses une question, pourquoi sur toi ? Pourquoi je suis ? Pourquoi nous sommes ? Pourquoi nous ne sommes plus un beau jour ? Pourquoi il y a le monde ? C'est quoi pourquoi la réalité ? Il y a une réalité. Il pourrait ne pas y avoir de réalité. Donc, tout d'un coup, tu mets extérieur, tu regardes la réalité, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi c'est ? Cette partie, ce qu'on appelle le impalpable. Maintenant, au niveau mystique. Donc, au niveau philosophique, on va dire comment je peux palper cet impalpable, c'est que du coup je sens des gens qui ont un réveil, qui cherchent un sens à leur vie. Donc Viktor Frankl, qui était dans la Shoah, qui était dans les camps, c'est un psychanalyste, qui a écrit un bouquin qui aujourd'hui est vendu à des millions d'exemplaires, il est déjà décédé, je crois, ce Viktor Frankl, mais il a donné un sens à sa vie. Il a fait des thérapies, il raconte dans la Shoah, c'est un livre que ça vaut la peine de lire. Il a fait tchouva en sortant des camps, c'était un type complètement non religieux. Mais dans les camps, il a compris que, de même, comme Freud dira, qu'il y a une libido, c'est-à-dire que le centre, on va dire, le moteur numéro un de l'être, c'est la libido, c'est tous les envies, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau même palpable des sensations, d'accord, mais c'est tout une économie de plaisir, c'est tout, c'est ça le moteur de l'homme, c'est tout. Comme l'animal, c'est très simple. Il est attiré par ce qui lui procure du plaisir et il fuit ce qui lui procure de la souffrance. Animal, Freud. Nous sommes des animaux un peu plus performants, mais pas beaucoup plus. Il vient Viktor Frankl et il prouve ça de façon pathologique, que l'homme a une autre entité pour qui il est nécessaire d'avoir un sens. Vital. Vital de donner un sens. Que nous appelons Neshama. Mais appelle-le Wagadadou, ça fait complètement égal. Ce que tu veux. Un truc impalpable. Qui, impalpable, mais il est. Comment dire ? Il est pas palpable, mais il est. Concret. Il n'est pas concret encore une fois, mais. Il est, on peut un peu l'appréhender, on peut le saisir, on peut le... Il existe. Il existe. Descartes dit, je pense, donc je suis. D'une réalité à la pensée. Ça, c'est au niveau philosophique. Au niveau mystique, effectivement, quand on se branche avec Dieu, avec la création, avec l'eau de la création, alors la Torah prétend qu'il y a une grande lumière qui vient et qui t'inonde. Lumière, je ne parle pas de lumière matérielle, je parle d'un flux, on va dire ça, un flux de vie qui vient de la source de vie, parce que nous vivons, donc il y a bien une source, ce que dit la physique actuelle, hein, la physique dit Big Bang. Il y a 15 milliards d'années, il n'y avait pas, du coup il y a eu. D'où il y a eu, messieurs les scientifiques? Alors les grands scientifiques disent, nous ne sommes pas obligés de dire qu'il y a, ils n'aiment pas dire le mot créateur, mais il y a, grand architecte, dit Trinh Xuân Thuan, c'est un grand astrophysicien d'expression française, d'origine vietnamienne, grand architecte. Yves Coppens, co-découvreur de Lucie, il dit, quand je vois depuis où nous sommes partis, nous sommes à quoi nous sommes arrivés, je ne peux pas dire que la nature, elle a été par hasard. Toujours au bon moment, il y avait la bonne mutation qu'il fallait. Donc il dit que la nature, elle induit. Induit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pousse dans une direction. Donc il y a quelque chose qui pousse. Il y a un dirigeant. Donc quand nous sommes, la Torah prétend que lorsque tu es en relation avec ce dirigeant, ce grand architecte, ce que appelle-le comme tu veux, tu fais une mitzvah, on s'appelle une mitzvah, ça veut dire une union, tu t'unis, tu étudies, parce qu'il y a une expression, nous prétendons qu'il y a une expression de ce créateur, c'est les prophéties, c'est la Torah, tu étudies cette expression, donc tu es branché avec lui, parce que lui, c'est tout ce que nous avons de lui, que ce n'est que son expression. Quand tu fais une mitzvah, tu fais sa volonté, donc tu te branches avec lui. Et à ce moment, il y a un branchement de vie très grand qui se fait. Il y a une source de vie. Et quand on te branche à la source de vie, tu es. Tu es plus. Plus être. Quelqu'un m'a demandé hier soir, c'est quoi un rave? Alors, le sens étymologique du mot rave en hébreu, c'est quoi rave? Beaucoup. C'est quelqu'un qui est beaucoup. C'est quoi être beaucoup? Tu es, je suis, nous sommes, nous étions, d'accord? C'est quoi être? Alors, on dit, être, c'est vivre, mais tu peux vivre petitement, animalement, bassement, et d'habitude malheureux, mesquin, et tu peux être à l'image de Dieu. Une amplitude d'infini. Programme extraordinaire, mais à cause de ça qu'on se branche avec Dieu. Maintenant, ce branchement, qui nous amène beaucoup de vie, il est difficilement palpable. Il y a des grands, grands messieurs, le Rabbi Loulapian, il y a quelques années, il y a peut-être 50 ans, comment il vérifiait les tefilines, il mettait un tefiline sur la tête, il disait « Kacher, pas kacher », d'accord? Parce que tefilin, c'est tefila, c'est branchement. Le tefilin, c'est la branche ADSL à haut débit avec Dieu. Ça veut dire le mot tefila, prière. Quand tu mets le tefilin, tu es en branchement à haut débit. Maintenant, pour sentir le tefilin, il faut quand même un certain niveau. Le Rambam écrit il y a 900 ans, quand quelqu'un porte le tefilin, alors il est en état de Yirat Shamayim. Il a forcément la crainte de Dieu. Il a forcément la crainte de Dieu. Donc, pour palper ça, il faut être... On dit que le Rambam, quand il met une ligne, il tremblait. Je me branche avec Dieu. Donc, il avait une réalisation qu'il a en face de Dieu. Nous, que nous sommes des moins de moins et complètement, coupés de nos sources, c'est très dur de sentir.
Qu'est-ce qui se passait quand c'était pas fixé sur sa tête?
Eh bien, il sentait rien. Il sentait qu'il n'y a rien qui passait. Tu sais, quand tu es à l'ordinateur, tu fais, puis ça ne marche pas. Tu cherches, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, d'accord? Bah, il chantait, une chose n'allait pas. Il manque une lettre dans le programme informatique, il n'y a plus rien qui passe. Il manque une lettre dans le tefilin, ça ne passe pas. Alors, au niveau maintenant des mitzvot, nous ne sentons pas grand-chose. Le meilleur, la mitzvah, qui donne la plus grande occasion de sentir, de palper, vraiment de sentir une chose au niveau, je ne vais pas dire physique, mais presque. Alors, on va dire quelqu'un qui est amoureux. C'est physique ou c'est métaphysique? Il sent quelque chose? Ouais. Il va prendre un médecin, il va... Je ne vois rien, il est où l'amour? Écoutez, je suis amoureux. Donc il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Appelle-le métaphysique, sentimental, ce que tu veux. Il y a un feedback chez nous, dans notre personne, de la mitzvah. La mitzvah qui permet de sentir ça le mieux s'appelle Shabbat. comme a dit Dieu. C'est marqué dans le Talmud que lorsque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, va, dis-leur à Israël, j'ai un cadeau dans mes trésors que je vais leur donner, il s'appelle Shabbat. Pour d'aucune mitzvah, c'est marqué comme ça. Pourquoi Dieu dit, j'ai un cadeau à leur donner qui est dans mes trésors? C'est-à-dire que c'est une chose qui est tellement extraordinaire. Shabbat, c'est un cadeau. Ça veut dire que quand tu reçois ça, tu peux facilement te brancher. D'accord? Shabbat, c'est le branchement. Shabbat, c'est un des noms de Dieu. Ça vient en nous. Et c'est marqué, mais en Olam Haba, c'est un goût de Olam Haba. Et c'est marqué que celui qui veut savoir un peu comment il est par rapport à Olam Haba, qui se voit, qui se palpe le jour du Shabbat. S'il sent quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà un pied là-dedans. S'il sent rien du tout, c'est qu'il y a du travail à faire encore. Messieurs, alors on travaille. Quelqu'un se trompe la prière Shabbat, il continue comme un chol, atachon namdat, c'est marqué qu'il doit faire attention de faire une grande tchouva. Pourquoi? Parce que c'est tellement palpable Shabbat, comment t'as pu te tromper? Comment t'as pu te tromper? C'est marqué qu'on change de visage Shabbat. J'ai raconté une fois mon chavruta, j'étais chavruta pendant 15 ans avec quelqu'un. Et on peut dire mon chavruta et mon rav. Tous les jours, je voyais peut-être 4 fois plus que ma femme. D'accord? T'es 8 heures par jour avec lui, la femme, tu la vois 2-3 heures le soir, donc en moyenne, t'es plus de temps dans ta vie avec ton chavruta qu'avec ta femme. Un jour, je suis allé écouter le shiur de Rav Ben Sion, Abba Shaoul. Et mon chavruta, elle allait tous les Shabbats, elle écoutait ce shiur. Moi, je n'habitais pas trop loin, je ne pouvais pas. Mais il m'est arrivé une fois, Shabbat, d'être dans la région. Je vais à la synagogue, je m'assieds à côté de quelqu'un. Avant, une demi-heure avant le shiur, il y a 3-4 personnes dans le... D'accord, je vois, bon, je ne fais pas attention. Et après quelques minutes, je me rends compte, c'est mon chavruta, assis à côté de moi. Et j'ai regardé, je n'ai pas reconnu. Le Midrash dit, un juif Shabbat, il a une autre tête. Il y a une autre vibration, un autre quelque chose. C'est quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un d'autre. On reçoit une âme supplémentaire, Shabbat, qui est effectivement quelque chose qui est puissamment palpable. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre chose. Oui.
Pourquoi on en reçoit l'âme supplémentaire? Il y a une raison de ça?
Je devrais rentrer, j'aimerais vous faire un cours sur Shabbat plus profond. Mais Shabbat, c'est le septième jour. Sept, ça correspond dans les sphères. La plus basse, c'est la malchoute, c'est la royauté de Dieu. La royauté, c'est le dévoilement. Un roi vient, il y a un dévoilement. Le roi vient dans la ville, tout change. Et on voit le roi et il y a quelque chose qui se passe quand le roi vient. Donc, pour qu'il y ait dévoilement vraiment physico-métaphysique, palpable, donc il y a une chose qui se dévoile. Donc il y a une sorte d'entrée du roi dans nous. Shabbat, c'est un des noms de Dieu. Il y a un branchement de lumière qui vient. Tellement grand que pendant le Shabbat, il y a une mitzvah spéciale, d'après certains rishonim, c'est de Oraita, de profiter de la matière. Parce que quelqu'un dirait, Shabbat, on va être comme Yom Kippour, des anges. Il ne faut pas manger, pas de relation avec sa femme. Pas, t'es avec Dieu, qu'est-ce que t'occupes maintenant des choses bassement matérielles? C'est tout le contraire. Shabbat, Dieu vient dans la matière au niveau des plus, l'estomac est un peu plus bas. Et c'est Oneg, Shulchan Aruch dit Oneg. Oneg, c'est-à-dire plaisir, c'est une mitzvah de la Torah, de bien manger Shabbat. Profiter de la matière, comment Dieu veut ça? Le dévoilement est tellement grand, et c'est ça le but du monde, c'est arriver à sanctifier la matière. Maintenant, il y a un travail à faire, messieurs. Parce que les gens, ils sanctifient la matière Shabbat. Allez, donne encore, donne, ils mangent, d'accord. Et ils sanctifient peut-être, je ne sais pas ce qu'ils sanctifient. En tout cas, ils mangent pour l'estomac. Arriver à manger pour Onek Shabbat, c'est un degré. C'est très beau, c'est très grand. Il faut penser à Shabbat et à profiter du Shabbat.
On parle de repos spirituel à Shabbat, ça veut dire.
Oui. Une chata nefesh. Ah ouais, absolument. Comme le monde il a 6000 ans d'histoire, après on rentre dans le Shabbat. Le Shabbat c'est l'achèvement de tout. Alors on a un goût préalable de cet achèvement de tout chaque 7 jours. Pendant 6 jours tu es en chemin, en action, en processus. Donc il y a une inquiétude, il y a un verre. Shabbat tout s'arrête. Le monde de l'action s'arrête. Et forcément quand il y a un dévoilement de la spiritualité, donc ça provoque un bonheur indicible. Ismechu bemalchutra shomrei Shabbat. Se réjouiront de ta royauté ceux qui préservent le Shabbat. La réjouissance, elle est de la royauté de Dieu. Et tu peux rester comme ça, rien faire. Essaye. Tu sens la vibration de Shabbat. Et tu kiffes. C'est, les gens disent, ils sont comme ça, dans le calme. C'est beau Shabbat. Vous n'avez pas senti ces choses qui sont tout à fait palpables. Tu sens Shabbat.
C'est pas trop si c'est Shabbat ou c'est autre chose. Enfin, c'est pas
il y a quelque chose qui se passe Shabbat. Quoi, les plats sont bons.
On parle que du Shabbat, on peut comprendre des choses qu'on, sur la Torah qu'on ne comprend pas.
Aussi, c'est certain, avec un dévoilement grand, tu peux arriver.
Ça, partir aussi de, on dit, ton dibour ne doit pas être le même que...
Oui, tout change, tout change. Quand tu as un dévoilement de Dieu dans toi, tout change. Tout ton aspect change, toute ta vie change, ta parole.
Non, parce que vous avez dit que quand tu as un Shabbat Nekabela, ça veut dire en fait, donc on parle à Hachem, que Hachem il va vers la Kala, et que la Kala elle dit qu'on reçoit le
non.
Fiancé.
Non. Nous sommes le fiancé et elle est la Kala. Shabbat Malketa, Shabbat la reine.
Oui, mais dans Shabbat, c'est l'inverse.
Ok, dans Shabbat, c'est l'inverse. Shabbat Malketa, pas Shabbat, Shabbat Amelech. Plus profondément, la royauté de Dieu, la route, c'est la Shrina. La présence de Dieu sur terre, c'est la Shrina. Shabbat, il y a un dévoilement de Shrina. Shrina, c'est 7 toujours. Dévoilement de la Shrina. Et le Shrina, on parle toujours au féminin. Ok, messieurs. Baruch Adonai, Elohim Amen.